Ok, là je suis avec mon ami Monsieur Sadoli et moi Monsieur Ngessi Luc. C'est parti.
Alors aujourd'hui pour notre radio comme thématique on a choisi une semaine sans écran. Aujourd'hui les écrans occupent une place très importante dans notre vie quotidienne, que ce soit le téléphone, la télévision, l'ordinateur. Nous les utilisons presque tout le temps, pourtant passer une semaine sans écran peut être une expérience très bénéfique. Nous allons donc voir pourquoi et comment relever ce défi. Alors déjà, faire une semaine sans écran, il y a des avantages. Tout d'abord, arrêter les écrans permet de se reposer mentalement et physiquement. Les yeux seront moins fatigués et le cerveau plus calme. Ensuite, cela améliore le sommeil car la lumière des écrans perturbe l'endormissement. De plus, on devient souvent plus concentré et plus attentif à ce qui nous entoure.
Et oui. Comme l'a dit Monsieur Sadoli Bija, il y a des avantages, mais aussi des inconvénients possibles sans écran. Cela dit, sans écran, il existe de nombreuses activités intéressantes. On peut lire des livres, faire du sport, dessiner ou bien écrire. On peut aussi cuisiner, jouer à des jeux de société ou se promener dans la nature. C'est aussi l'occasion de découvrir de nouvelles passions ou de passer du temps avec ses proches.
Hey, mais toi, c'est quoi tes difficultés et t'aurais fait quoi pour comme solution à ces difficultés?
Ah. Je pense que je serais prêt à surmonter les épreuves, malgré que ça serait difficile au début. Quand nous sommes très habitués aux écrans, on peut ressentir de l'ennui, de l'envie de consulter son téléphone. Mais si on a l'envie de réussir, on peut le réussir. Il est important de s'organiser, de prévoir des activités et de prévenir ses proches. On peut aussi limiter l'usage du téléphone uniquement aux urgences. Ça veut dire on utilise le téléphone qu'en cas d'extrême urgence.
Ouais, je vois. Pour conclure, faire une semaine sans écran est un défi difficile mais très enrichissant. Cela permet de se reconnecter à soi-même et aux autres tout en améliorant son bien-être. Et t'en penses quoi, toi?
Je pense que en vrai, tout le monde devrait essayer cette expérience au moins une fois dans sa vie.
Bonjour, je m'appelle Louis et aujourd'hui je vais vous parler des mangas.
Nani?
Je vais vous parler de plusieurs types de mangas, donc on va commencer par les shonen, après les seinen, les isekai et les slice of life. En shonen, j'ai pris le manga Mob Psycho 100, en seinen, Ascension The Climber en anglais, en isekai No Game No Life, et en slice of life Goodnight Pun Pun. Je vais commencer par vous donner les définitions. Donc les isekai, c'est des mangas où les personnages principaux sont réincarnés, téléportés, piégés dans un monde fantaisique. Les slice of life, ce sont des histoires où on suit les personnes souvent dans notre monde et époque, et ce sont souvent des romances. Maintenant, les shonen, ce sont les œuvres shonen caractérisées souvent par des thèmes d'action, d'aventure, de lutte contre le mal et le développement personnel, en mettant en avant les valeurs de l'amitié, l'effort et la persévérance. Donc, Mob Psycho 100, c'est un manga de type shonen. On y suit Mob, un collégien qui possède de puissants pouvoirs psychiques. Mob va devoir apprendre à vivre avec, malgré ses différences avec les autres. À présent, Goodnight Pun Pun, c'est un manga assez spécial. On y suit Pun Pun, un enfant représenté par un oiseau en papier 2D. Ce manga est assez sombre, mais ce qui m'a beaucoup plu dedans, c'est à quel point l'œuvre fait ressortir les émotions humaines. Maintenant, Ascension, c'est un manga de type seinen qui parle d'un lycéen nommé Buntaro Mori. Après avoir grimpé le mur de son lycée, il trouve une passion pour l'alpinisme, principalement en solo. Ce manga est vraiment incroyable, que ce soit pour ses planches absolument magnifiques, ses personnages très bien écrits. Maintenant, No Game No Life, donc l'isekai, c'est une série animée qui suit l'histoire de deux frères et sœurs, Sora et Shiro, transportés dans un monde fantaisique où tout est décidé par les jeux, explorant des thèmes profonds comme la vie et la relation, la moralité. Pour conclure, les mangas sont très variés et il y en a beaucoup pour tous les goûts. Merci de m'avoir écouté.
Bonjour, nous sommes Anthony Bois
et Alcini Chérif Aïdara, on est en classe
de seconde pro 2 au lycée Raoul Dautry.
Et aujourd'hui, nous allons vous présenter l'histoire du rap.
Le rap est né dans les années 70 dans les ghettos américains, le plus précisément dans le Bronx, un quartier de New York. En France, quant à lui, le rap se développe à partir de la fin des années 1980 et il émerge en Seine-Saint-Denis.
Le rap a pour définition « rit and poetry ». Le rap, c'est une suite de couplets séparés par le refrain. Le rap est inspiré des cultures africaines. L'ancêtre du rap est le spoken word, qui veut dire mot parlé, apparu en 1930. Pour les évolutions du rap, on a pu connaître jusqu'à aujourd'hui le hip-hop expérimental ou aussi le gangsta rap.
Les grandes figures. DJ Kool Herc est une figure du hip-hop dans le Bronx au début des années 70.
This is DJ Kool Herc, the father of hip-hop. This is going out to my man over in Japan.
Il n'était pas rappeur mais DJ et c'est lui qui a créé les bases du genre.
Les années 2010 ont été marquées de certains des artistes les plus influents dans l'histoire du rap, comme Drake, Kanye West, Kendrick Lamar, Wiz Khalifa, Playboi Carti, Childish, Gambino, chacun avec un style de musique propre à eux-mêmes.
Une liste des grandes figures du rap français. Booba, IAM, Supreme, NTM, MC Solar, Orof, Orelsan, Jul, PNL, Nino, Caris. Nous de notre côté, on écoute des artistes comme Werenois, Timar, Che, TVLM, La Rafleuse.
C'est chaud comme un mois d'août, ils ont pas un si petit macoumet. Médicinal, je suis aux Antilles. On va rasbattager.
Il y a des points positifs comme négatifs. Pour le positif, le rap domine les plateformes de streaming comme Spotify ou Apple Music. Le rap est devenu très culturel. Et pour le négatif, le rap a une image très controversée pour certaines de ses paroles violentes, mais aussi l'image excessive de l'argent et de la richesse, ce qui a une mauvaise influence sur les jeunes.
En conclusion, ce qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est que le rap a pris une place importante pour certaines personnes, que ce soit culturel ou uniquement pour se détendre.
Nous espérons que notre sujet vous aura plu et que vous avez appris de nouvelles choses sur le rap. Merci de votre écoute.
Bonjour, je me présente, je m'appelle Soufiane et aujourd'hui je vais vous présenter mon émission de radio qui va porter sur la CAN en plusieurs parties. Alors, quelle est l'histoire de la CAN? La CAN, donc la Coupe d'Afrique des Nations, a commencé en 1957 au Soudan et il y avait 4 nations qui participaient à cette CAN, mais pas réellement. Vraiment, il y avait l'Égypte, l'Éthiopie et le pays organisateur, le Soudan. Mais il y avait aussi l'Afrique du Sud, mais cependant, elle a été disqualifiée avant le tournoi à cause de la politique de l'apartheid. L'apartheid est un régime politique de ségrégation raciale systématique et d'inégalité imposée par les minorités blanches en Afrique du Sud en 1948 et 1991. En clair, c'est la séparation forcée des populations selon leur couleur de peau au profit d'un seul groupe. One heart, one goal, résultat sur le terrain. Un tournoi très court, l'Égypte bat 2-1 puis écrase l'Éthiopie 4-0 en finale. L'Égypte devient ainsi le premier champion d'Afrique de l'histoire. Une CAN entrée dans l'histoire pour son football, mais aussi pour ses valeurs de fraternité. La dernière CAN en date est la CAN 2026 qui a eu lieu au Maroc. Cette CAN était très attendue par les Marocains qui ont inauguré leur nouveau stade Moulay Abdellah à Rabat. Le stade a été entièrement reconstruit et modernisé pour l'occasion. C'est là qu'a lieu la grande cérémonie et le tout premier match entre le Maroc et les Comores le 21 décembre 2025. Le premier match a opposé le Maroc contre les Comores. Le Maroc qui a gagné 2-0. Malheureusement, cette CAN qui était très attendue par les supporters va vite devenir un cauchemar. Plus les matchs passent, plus les avis tombent. Et ils sont plutôt de mauvais avis. L'arbitrage des matchs sont très médiocres, surtout dans les matchs où le pays du Maroc jouait. Certaines nations dénoncent de la corruption, mais le pays dénonce toute insulte de ce genre. La finale sera la Coupe des Trous. Nous sommes en finale de la CAN qui oppose le Maroc contre le Sénégal. Le match commence, les deux équipes se donnent un fond. 90 minutes, toujours pas de but. Les esprits s'échauffent, les joueurs se donnent au max. Quand soudain, à la 92e, Ismaël Sarr pousse le ballon au fond des filets après que la tête de Abdoul Nasser a heurté la balle transversale sur un corner. Le but qui a été refusé à cause d'une faute présumée de Abdoul Nasser sur le défenseur et capitaine marocain Achraf Hakimi lors du duel aérien sur le corner. Pourquoi la polémique ? L'arbitre congolais Jean-Jacques Nadala a sifflé avant que le but rentre dans les cages. Ce qui est pour certains une façon de déconcentrer les Sénégalais. Comme le jeu a été arrêté par le sifflet de l'arbitre avant que le but ne soit marqué, l'action était techniquement morte. De ce fait, l'assistante vidéo, donc la VAR, n'avait pas le droit d'intervenir pour valider le but ou de vérifier s'il y avait réellement faute. À la 96e, sur la contre-attaque marocaine qui suit, Brahim Diaz s'écroule sur la surface. L'arbitre siffle le pénalty. À la 97e, le match est totalement interrompu. Les Sénégalais furieux contestent et quittent la pelouse jusqu'à la 114e minute. Après 20 minutes de chaos, de négociations, le jeu reprend enfin. Brahim Dia s'élance pour son pénalty qu'il a malheureusement raté de la pire des manières. Certaines rumeurs disent que le joueur aurait été déconcentré par le gardien du but Edouard Mendy car il lui aurait dit quelque chose pendant que Brahim Diaz était en train de se concentrer pour marquer son pénalty. Et je vais clore cette émission en vous parlant de la fin de cette CAN historique et catastrophique qui s'est finie pour un score de 1-0 pour le Sénégal. Donc le gagnant de cette 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations est le Sénégal. Mais il y a bien 3 mois, sur le tapis vert, le Maroc a gagné la CAN pour cause que certains hommes du Sénégal auraient quitté le terrain alors qu'ils n'auraient pas le droit. Malheureusement, le Maroc ne peut pas célébrer cette victoire de plein cœur car c'est une honte de finir un match 3 mois après sans avoir gagné sur le terrain.
Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons vous présenter l'histoire du PSG.
Paris Saint-Germain. Dans un premier temps, nous allons vous parler de la création de l'équipe du PSG.
Puis ensuite, de tout ce qui est égalité homme-femme.
La fabrication des maillots, la gestion sponsorique.
Ainsi que le résumé de leur palmarès et des légendes passées par le club. Pour commencer, le PSG a été créé le 12 août 1970 par Pierre-Étienne Guyot.
1906-1985,
qui a fait fusionner le Paris FC avec le club du Stade Saint-Germainois.
Depuis la création du club, de nombreux stars sont passés par le club.
Comme Neymar,
Thiago Silva,
Kylian Mbappé,
David Ginola.
Mais bon, on y reviendra plus tard.
Quand on parle de Paris Saint-Germain, on pense bien sûr à l'équipe masculine. Mais il y a aussi une équipe féminine.
Elle a vu le jour en 1971, le jour n'est pas précisé.
Depuis toujours, le PSG féminine attire beaucoup moins de personnes que chez les hommes.
Les femmes gagnent aussi beaucoup moins d'argent que nos amis masculins.
Pour préciser, les hommes en moyenne au PSG gagnent à peu près 500 000 euros par mois.
Tandis que les femmes sont à 2 à 3 000 euros, ce qui fait une sacrée différence d'à peu près 480 000 euros, ce qui est énorme.
Joueurs emblématiques.
Joël Batz, gardien de but, 1985-1992.
Georges Weah, 1982-1995.
Attaquant.
Ronaldinho, 2001-2003.
Attaquant.
Paoletta, 2003-2008.
Attaquant.
Thiago Silva, 2012-2020.
Défenseur.
Neymar, de 2017 à 2023.
Attaquant.
Lionel Messi, 2021-2023.
Attaquant.
Et Marquinhos, 2013 à maintenant.
Défenseur.
Pour finir, Ousmane Dembélé, 2023 à maintenant.
Attaquant.
Etc.
Pourquoi parlons de ces joueurs en particulier?
Tous ces joueurs ont marqué le club à leur façon. L'exemple le plus récent est le ballon d'or d'Ousmane Dembélé.
Le palmarès du Paris Saint-Germain est de 58 trophées.
1. Champions League.
Une Super Coupe de l'UEFA.
Une Coupe Intercontinentale de la FIFA.
Une UEFA Winner Cup.
13 Ligue 1.
16 Coupes de France,
9 Coupes de la Ligue,
14 Trophées des Champions,
1 Ligue 2,
1 UEFA Intertoto Cup.
Pour conclure, le Paris Saint-Germain est un club majeur.
Pour l'histoire du football français, encore aujourd'hui, beaucoup de jeunes rêvent d'intégrer ce club légendaire.
Bonjour, avec mon collègue, on va vous présenter notre sujet qui parle du mot gênant en 2026. Le mot gênant provient de l'ancien français « gêne », signifiant « torture » et « dérivé » du mot français « gêne » qui décrit un état de malaise ou de difficulté. Cela fait quelques années depuis 2016 qu'on observe une récurrence de ce mot. Le mot gênant en Big 2026. En 2026, il faut arrêter de dire ce mot.
À chaque blague que l'on fait, il y a toujours quelqu'un qui dit « gênant » et c'est chiant.
C'est gênant.
Les profs nous demandent des idées et c'est gênant.
C'est gênant.
Monsieur Benoist est le plus gênant des profs.
C'est gênant.
Quand je joue à Brawl Stars, il y en a qui disent que c'est gênant.
C'est gênant.
Quand je joue à Fortnite, j'entends c'est gênant.
C'est gênant.
Quand Gabriel fait « ah !» C'est gênant. C'est moi ça ?
Oui.
les gens qui écrivent en Big 2026 dans les commentaires avec un emoji fleur qui pend.
C'est gênant.
Le mot gênant a été utilisé par les réseaux sociaux en partie sur TikTok. Laissez les gens faire ce qu'ils veulent faire en paix.
Salut, c'est Lucas, 16 ans.
Et Ethan, 15 ans.
Aujourd'hui, nous allons vous parler de nos aventures paranormales.
L'origine du Ouija. Le mot Ouija viendrait de oui en français et ya en allemand, qui veut tous les deux dire oui. La planche Ouija apparaît à la fin du 19e siècle, vers 1890. À l'origine, elle était vendue comme un jeu de société, notamment aux États-Unis.
Comment ça fonctionne ? La planche comporte les lettres de l'alphabet A à Z, les chiffres de 0 à 9, les mots oui, non et au revoir.
Les joueurs posent leurs doigts sur un petit objet appelé planchette, un petit pointeur utilisé sur une planche Ouija. Ils glissent sur les lettres pour former un message, se déplacent pour former des mots. Certains pensent que ce sont les esprits qui la bougent et posent ensuite des questions, par exemple.
Es-tu là ? Où es-tu ? Combien de personnes y a-t-il ici ? Sommes-nous seuls ?
En 2012, les scientifiques expliquent ce phénomène par l'effet idéomoteur, un phénomène psychologique où des mouvements musculaires inconscients se déclenchent par des pensées ou des attentes, souvent sans que la personne soit consciente.
Les personnes bougent sans se rendre compte, influencées par leur attention et leur imagination.
La Ouija est souvent vue comme dangereuse. Dans les films d'horreur, certaines croyances disent qu'elle pourrait ouvrir un portail vers les esprits, mais aucune preuve scientifique ne confirme cela.
Tout va bien, Janet ?
Ne m'appelez pas Janet.
The Conjuring 2 est un film d'horreur
où les enquêteurs paranormaux aident Lorraine Warren alors qu'ils se rendent à Londres pour aider une famille en proie à des événements surnaturels, en se concentrant particulièrement sur la possession d'une jeune fille nommée Janet. Dans le film, ils utilisent la planche Ouija pour parler avec l'esprit qui hante la famille.
Merci de nous avoir écouté expliquer quelques faits intéressants sur les paranormales et les planches Ouija. Si vous avez envie de jouer à une planche Ouija, bien que cela n'ait pas été entièrement prouvé scientifiquement, cela peut être dangereux, alors faites attention et faites plus de recherches avant de l'utiliser. Thank you, Matthew Stegen.
Bonjour, aujourd'hui on va parler de la corruption dans le football.
L'image du jour, c'est Bernard Tapie qui passait cet après-midi son oral de député.
Merde, la morale. Oh, je suis mal, j'ai pas révisé, moi.
La corruption dans le football se réfère à un ensemble d'activités illégales ou contraires à l'éthique qui vise à influencer le résultat ou l'intégrité d'un match ou d'un événement sportif.
Ouais, salut bonhomme. Quand j'invite TF1 à becter pour signer les droits du foot, je leur chie pas dans l'assiette, hein. Alors ce soir, y a pas de raison qu'ils me gerbent sur les pompes. On est entre gentlemen, non ?
L'affaire Bernard Tapie commence le 20 mai 1993 entre le match de l'OM et de Valenciennes. Quelques semaines plus tard, le club nordiste révèle l'existence d'une tentative de corruption à la mi-temps. Le défenseur valenciennois Jacques Glassman a confié à son entraîneur que deux joueurs valenciennois et anciens coéquipiers d'Aide Lee et également Georges Bucharaga et Christophe Robert pour qu'ils lèvent le pied lors du match.
Ce qui est marrant, c'est que on revient souvent vers moi pour me poser beaucoup de questions sur cette histoire. Ouais. Mais les choses sont actées, mais personne n'en parle, ça. Donc moi, je dis, je continue à mentir parce que j'ai donné ma parole que je dirai rien. Et puis il y a Bernès qui déballe tout au procès. Jusqu'aux sommes allouées par an pour la corruption.
Donc pour plusieurs matchs.
Pour l'année.
8 juillet 2008, Bernard Tapie est condamné à 2 ans d'emprisonnement, dont un ferme, à 3 ans d'inéligibilité et 20 000 francs d'amende. Après avoir fait appel, il écope d'une peine de 2 ans de prison dans 8 mois ferme. Jean-Pierre Bernès, défendu par l'avocat Gilbert Collard, a 2 ans avec sursis et 15 000 francs d'amende. Jean-Jacques Aideli a 1 an avec sursis et 10 000 francs d'amende. Christophe Robert et Georges Barouchaga à 6 mois avec sursis et 5000 francs d'amende chacun. Marie-Christine Robert à 3 mois avec sursis. Donc on peut conclure que l'affaire Bernard Tapie est une des affaires les plus emblématiques du football en France et qu'il y a d'autres exemples de corruption comme avec les paris sportifs.
La réaction de Bernard Tapie.
Eh oui, bonhomme, blanc comme neige, immaculé, je suis Cendrillon, je suis Bambi, je suis une biche, je suis une jeune fille.
Bernard, n'en faites pas trop quand même.
Bah, t'es marrant, toi, j'ai eu les jetons. Jusqu'à hier, je savais pas que j'étais innocent, moi.